Chapitre 2. Comment Bessie Pryor n'épousa pas le pasteur. Bien sûr qu'il y avait du danger. Mrs. Miles en avait été consciente dès le début. Il y avait eu pour elle une sorte de jouissance à imaginer qu'elle avait entrepris l'accomplissement d'un devoir qui pouvait à terme avoir des conséquences très douloureuses. Élever Bessie avait effectivement été un devoir, car même lorsque cette dernière était encore une petite fille maigrichonne au regard vague, Mrs. Miles avait toujours gardé à l'esprit l'horreur que pourrait représenter une histoire d'amour entre son fils et la petite fille. Les Miles avaient toujours beaucoup compté, et les Launay encore plus, dans l'ouest de l'Angleterre. Bessie n'avait pas le moindre bien à elle, mais elle était devenue belle et attirante, et pire encore, tellement importante dans la maison, que Philippe lui-même pourrait être tenté de penser qu'elle serait digne d'être sa femme. Parmi les obligations que s'imposait Mrs. Miles, aucune n'était plus forte que le devoir de maintenir la position sociale élevée des Launay. Elle était de ceux qui non seulement pensent que le sang bleu doit rester bleu, mais aussi que le sang qui n'est pas bleu ne devrait pas pouvoir se teinter de la moindre nuance de bleu. La stricte séparation des classes avait valeur de religion pour elle. Bessie était une dame, c'était un fait, et en conséquence, elle avait été placée dans le salon plutôt que reléguée parmi les serviteurs, et ainsi elle était devenue, oh, tellement dangereuse. Elle était une dame, et donc faite pour être la femme d'un gentilhomme, mais pas pour être la femme d'un Launay. Sans doute le lecteur comprendra-t-il que l'auteur de cette petite histoire pense qu'elle était faite pour être la femme de n'importe quel homme qui aurait été assez heureux pour se gagner son jeune cœur. Mais le sang, c'est le sang. Et Mrs. Miles avait jugé que des arrangements et des précautions étaient nécessaires. Mrs. Miles avait entièrement approuvé le voyage au Japon. Cela avait été une précaution et lui laisserait probablement le temps nécessaire pour trouver un arrangement. Elle avait même essayé d'user de son influence pour prolonger le voyage, jusqu'à ce que tout soit arrangé, mais en cela, elle avait échoué. Elle avait écrit à son fils, lui disant que, comme son séjour dans ces pays étranges allait certainement dans un sens positif pour l'amélioration de la race humaine, si elle en jugeait par ses activités philanthropiques, le livre et les études botaniques, elle ne voudrait en aucune façon le presser par sa propre impatience bien naturelle. Si une année de plus était nécessaire, les versements seraient effectués avec libéralité. Mais Philippe, qui était parti parce qu'il en avait envie, revint quand il en avait envie. Et donc, il fut rentré avant que les arrangements nécessaires, dont Mrs. Miles s'était activement occupée durant les 6 derniers mois de son absence, aient été terminés. Un jeune clergyman des environs, de bonne allure, avec un revenu de 400 livres à l'année et une fortune de 6000 livres bien à lui, avait, durant ce temps, été présenté à Bessie par Mrs. Miles. Mr. Morrison, le révérend Alexander Morrison, était assurément un excellent jeune homme, mais on pouvait douter que le patronage qui l'avait conduit à s'installer si jeune à Budcombe, le préférant ainsi à beaucoup d'ecclésiastiques plus âgés, ait été le fruit de motifs véritablement cléricaux. Mrs. Miles pourvoyait elle-même aux nominations, et ayant pendant les 6 dernières années ressenti la nécessité de fournir un mari à Bessie, elle avait recherché un jeune homme doté de nombreux talents et qui saurait sans aucun doute la rendre heureuse. Mrs. Miles avait d'abord pensé ajouter 2000 livres dans la balance. Puis l'amour s'était emparé d'elle et Bessie était devenue chère à tout le monde et il y eut beaucoup d'argent. La chose pouvait être rendue tellement agréable pour tous que son acceptation ne faisait aucun doute. Le jeune pasteur, lui, ne doutait de rien. Pourquoi aurait-il douté ? La vie n'avait été pour lui qu'une incroyable succession de chances. Ce qui lui était proposé le mettrait sur un pied d'égalité avec les gentlemen aisés du comté et la fille elle-même. En outre, Bessie s'était imposée à lui comme une image de la perfection féminine au premier regard qu'il avait posé sur elle. Il lui semblait que le ciel faisait pleuvoir sur sa tête ses bénédictions les plus choisies. Ce n'était pas que Mrs. Miles eût quelque faute que ce soit à reprocher à Bessie. Si elle avait directement sauté dans les bras de celui à qui on l'offrait, Mrs. Miles elle-même eût été choquée. Elle connaissait suffisamment Bessie pour savoir qu'il n'en serait rien. Bessie avait d'abord été étonnée, puis, se jetant dans les bras de sa meilleure amie, avait dit qu'elle se croyait trop jeune. Mrs. Miles avait accepté cette étreinte, et elle avait accepté ce prétexte, et elle s'était déclarée tout à fait satisfaite, disant simplement que Mr. Morrison serait autorisé à venir à la maison et à faire tout ce qu'il pourrait pour se montrer agréable. Le jeune pasteur était venu à la maison, et il s'était montré facile à vivre et plaisant. Bessie ne dit jamais un mot contre lui, et en vérité, elle essaya de se persuader que ce serait une bonne chose de l'aimer, mais elle n'y parvint pas. « Je pense qu'il est très bon, » dit-elle un jour, pressée par Mrs. Miles. « Et c'est un gentilhomme. »« Oh oui, » dit Bessie. « Et de bonne allure. »«
Je ne pense pas que cela compte, ma tante. » »«
Non, ma chère, non. Seulement, il est élégant, et il est très épris de vous. » Mais Bessie ne se confia pas et ne donna certainement aucun encouragement au gentleman lui-même. Tout ceci se passait juste avant le retour de Philippe. À cette époque, son passage à Launay devait être court, et pendant son séjour, il devait être bien occupé. Il n'y aurait pas grand danger durant cette quinzaine, et Bessie n'était pas du genre à se jeter dans les bras d'un homme. Elle le rencontra comme si elle était encore sa petite compagne de jeu de l'ancien temps et le traitait comme s'il était un être supérieur. Elle se précipita à sa rencontre tandis qu'il rangeait ses trésors botaniques et elle se délecta de toutes ses histoires sur les peuples qu'il avait rencontrés. Mrs. Miles, tandis qu'elle les regardait, continuait à penser qu'il n'y avait pas de danger. Mais elle avançait avec précaution. « J'espère que vous aimerez Mr. Morrison, » dit-elle un jour à son fils. « Bien sûr, mère, mais pourquoi me demandez-vous cela ?»«
C'est un secret, mais je vais vous le dire. Je pense qu'il sera le mari de notre chère Bessie. »«
Épouser Bessie ? Et pourquoi pas ?»
Il y eut une pause.
« Vous savez combien j'aime Bessie ?» J'espère que vous ne me direz pas que j'ai tort quand je propose de lui donner ce qui sera pour elle une véritable fortune, tout bien considéré. Vous devriez la traiter comme si elle était une fille et une sœur, dit Philippe. Tout de même pas, mais vous ne lui refuseriez pas 6 000 livres. Ce n'est pas la moitié de ce qu'il faudrait.
Eh bien, 6 000 livres, ce n'est pas une petite somme à donner.
Mais de toute façon, je suis sûr que nous tomberons d'accord sur Bessie. Ne trouvez-vous pas que Mr. Morrison ferait un bon mari ?
Philippe prit un air très sérieux, fronça les sourcils et quitta la pièce en disant qu'il allait y penser. Lui laisser penser que le mariage était presque arrangé, cela constituait déjà une grande protection. L'entendre parler de Bessie presque comme d'une sœur était aussi une sorte de protection. Mais il y en avait une autre encore plus efficace. Là-bas, en Cornouailles, se trouvait une autre héritière de Launay, une cousine au 3e ou 4e degré, et il avait été de longue date décidé par les anciens de la famille que les propriétés des Launay devraient être rassemblées. À cela, Philippe n'avait donné aucun assentiment formel, et il s'était même enfui au Japon quand on avait décidé qu'il devait aller en Cornouailles. L'héritière de Launay avait alors seulement 17 ans, et on avait pensé qu'il n'était pas plus mal de reporter à plus tard, afin que le jeune homme ne passe pas ce temps dans un dangereux voisinage. Les îles des mers du Sud et la Patagonie étaient sans danger. Et maintenant que l'idée de combiner les propriétés revenait à l'esprit, au début, il n'éleva pas d'objection. Certainement, de telles précautions seraient suffisantes, surtout que la nature réservée de Bessie ne lui permettrait pas de tomber amoureuse d'un homme dans un délai aussi réduit qu'une quinzaine de jours. Pas un mot de plus ne fut prononcé entre Mrs. Miles et son fils concernant les espoirs de Mr. Morrison. Pas un mot de plus. Elle était assez intelligente pour se rendre compte que cette perspective ne lui était pas agréable, mais elle attribuait ce sentiment à l'idée qu'il pensait que Bessie devait être traitée à tous égards comme si elle était une fille de la maison de Launay. L'idée était absurde, mais sans danger. Le mariage, s'il pouvait être arrangé, pourrait bien sûr se faire, mais il ne devait plus lui être mentionné jusqu'à ce qu'il puisse être présenté comme une chose absolument décidée. Mais il n'y avait pas de danger immédiat. Mrs. Miles était convaincue qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Elle avait vu Bessie, maigrichonne et rougeaude, acquérir graduellement les proportions d'un parfait charme féminin. Mais, ayant assisté à cette transformation, elle ne se rendait pas compte à quel point la jeune fille était devenue charmante. Une femme a souvent du mal à se rendre compte du pouvoir sans limite que certaines natures féminines et certaines formes féminines exercent inconsciemment auprès des jeunes gens qui les entourent. Mais Philippe, lui, le savait, ou plutôt il le ressentait. Se promenant dans le parc, il se dit en lui-même qu'Alexander Morrison était un insupportable et impudent cuistre clérical, assertion qui n'avait, pour être franc, aucun fondement. Puis il accusa sa mère d'une sordide attirance pour l'argent et la propriété, et il se jura bien de ne jamais faire un seul pas vers la Cornouaille. S'il était décidé de faire venir cette Launay rouquine depuis l'Ouest, il s'en irait à Londres et retournerait peut-être même au Japon. Mais ce qui le choquait le plus, c'était qu'une jeune fille comme Bessie, qu'il avait toujours traitée comme si elle était sa propre sœur, puisse se donner à un homme comme le pasteur à la première demande. Tandis qu'il pensait à la bassesse de la nature féminine, il frappait de sa canne les arbres parmi lesquels il marchait. Et en plus avec cette grosse brute affreuse. Mais Mr. Morrison n'était en fait pas du tout gros, et la plupart des gens l'auraient trouvé de plus belle prestance que Philippe Launay. Alors vint le jour du départ. Philippe retournait à Londres en mars pour suivre les progrès de son livre dans la presse, se faire connaître au club et, plus généralement, s'habituer au style de vie qui serait désormais le sien. Il était entendu qu'il passerait la saison à Londres et ensuite la question du rapprochement des propriétés serait examinée sérieusement. Ainsi sa mère voyait-elle les choses, mais au moment de son départ, il était bien décidé pour sa part à ne jamais accorder la moindre considération à cette question de la fusion des propriétés. Ce matin-là, il rencontra Bessie aux environs de la maison. Elle fut très douce avec lui, en partie parce qu'elle l'aimait tendrement comme son frère adoptif, en partie parce qu'il s'en allait, mais aussi parce que la douceur était dans sa nature. « Il y a une question que je veux vous poser, » lui dit-il soudainement, se retournant vers elle en fronçant les sourcils. Il n'avait pas eu l'intention de montrer de la colère, mais il ne parvenait pas à la dissimuler. « Qu'y a-t-il, Philippe ? » dit-elle en pâlissant, mais elle le regardait droit dans les yeux. « Êtes-vous fiancé à ce pasteur ?» Elle continuait à le regarder, mais ne prononçait pas un mot. « Allez-vous l'épouser ? J'ai le droit de le demander. » Alors, elle fit non de la tête. « Bien sûr, vous n'allez pas le faire. » Et maintenant, tandis qu'il parlait, sa voix était changée et il ne fronçait plus les sourcils. À nouveau, elle secoua la tête. Alors, il lui prit la main et elle la lui laissa, ne pensant pas à lui autrement que comme à un frère. « Je suis si heureux, je déteste cet homme. »« Oh, Philippe, il est très bon. »« Je ne me soucie pas pour un liard de sa bonté. »« Vous êtes bien sûr. » Maintenant, elle faisait signe que oui. « Ça aurait été terrible et vous m'auriez rendu misérable, misérable. »« Bien sûr, ma mère est la meilleure femme du monde. »« Mais pourquoi ne peut-elle pas laisser les gens trouver tout seuls leur mari et leur femme ?» Il fronça à nouveau quelque peu les sourcils, puis, avec un effort visible, il poursuivit. « Bessie, vous êtes devenue la plus merveilleuse femme que j'ai jamais vue. » Elle retira soudain sa main. « Philippe, vous ne devriez pas dire des choses pareilles. » « Et pourquoi pas si c'est ce que je pense ? » On ne devrait jamais rien dire sur soi à quiconque. « Vraiment. » « Vous savez ce que je veux dire. Ce n'est pas bien. » C'est le genre de choses que les gens qui ne sont pas des ladies ou des gentlemen écrivent dans les livres. Je pensais que je pouvais tout vous dire. Certainement, et bien sûr vous êtes différent, mais il y a des choses tellement désagréables. Et je suis l'une d'elles ? Non, Philippe, vous êtes le plus loyal et le meilleur des frères. En tout cas, vous n'allez pas... Il fit une pause. Non. C'est une promesse à votre cher frère préféré. » Elle approuva à nouveau d'un signe de tête et il fut satisfait. Il partit et quand il retourna à Launay après 4 mois, il vit que les choses n'allaient pas sans difficulté à la propriété. Mr. Morrison avait été refusé et la jeune fille l'avait assuré positivement qu'elle ne changerait jamais d'avis. Et Mrs. Miles était devenue plus inflexible que jamais dans l'accomplissement de son devoir envers sa famille.